Alors bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette dernière conférence du cycle Pouvoir et autorité en islam. Dernière séance qui est donc consacrée à l'autorité juridique à travers la question des fatwas et de ceux qui les rendent, les muftis. Nous remercions chaleureusement notre invité, monsieur Ghaleb Bencher, d'avoir accepté de venir parler de cette question ce soir. Monsieur Bencher est physicien et islamologue, c'est plutôt sous cette casquette, mais bon, on ne sait pas finalement, plutôt sous cette casquette qu'il intervient ce soir. Et il est connu médiatiquement, notamment parce qu'il a animé, il anime encore l'émission Islam sur France 2, qui est une émission religieuse sur France 2 le dimanche matin, et plus récemment, producteur de l'émission Culture d'Islam sur France Culture. Il a également une riche activité associative et militante puisqu'il est notamment le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix et il est également l'auteur de plusieurs essais dont le dernier, je crois, est paru chez Erol en 2015 et s'intitule « Lire le Coran ». Juste avant de lui laisser la parole, puisqu'il s'agit de la dernière conférence, je voulais aussi vous dire que, a priori, le thème de l'année prochaine, du cycle de l'année prochaine, sera consacré aux minorités et que les conférences commenceront donc à partir du premier mardi du mois d'octobre. Que tous les participants qui ne sont pas abonnés à notre newsletter n'hésitent pas à remplir la feuille qui va circuler, donc pas juste pour mettre leur nom, mais surtout pour mettre vos adresses mail pour que on puisse vous adresser cette lettre. Donc merci, je vous laisse la parole tout de suite.
Merci infiniment, merci beaucoup, merci Madame la directrice. Je vous ai dit qu'en l'absence du directeur, vous avez le titre au complet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un sous-secrétaire d'État se trouve ministre, c'est quand on s'adresse à lui. Donc, mesdames et messieurs, bonne fin d'après-midi. J'ai cru comprendre que c'est la dernière séance, alors j'espère qu'elle sera bonne et en tout cas utile pour vous. Et votre serviteur n'est là que pour le truchement d'aborder un sujet crucial, fondamental et au centre d'enjeux nationaux et internationaux. J'ai entendu pouvoir juridique, fatwa, mufti. Et ces mots-là sont devenus des mots anxiogènes. D'ailleurs, même le mot islam en tant que tel en est un. Chez les linguistes, le mot islam est un mot valise dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Il couvre une gamme allant depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden, et ça peut aller crescendo ou décrescendo selon certains jusqu'au soufisme, ce qui est intériorisé dans les cœurs, et passant peut-être par une civilisation impériale à l'architecture palatiale. J'aime toujours rappeler que Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, la Soleimania, la mosquée des Omeyyades ou l'Alcazar témoignent et défient l'éternité. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir, et je ne suis surtout pas venu verser dans une apologie mièvre et caresser un passé mythique et révolu. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Or, maintenant, il y a une crise, une véritable crise. La crise peut être un lieu de salut pour certains quand elle est bien négociée, mais elle peut être fatale. Antonin Gramsci dit « Lorsque le passé se meurt et l'avenir n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et les monstres, hélas, surgissent quand il y a sommeil de la raison. » El sueño de la razón produce monstruos, disait Goya. Le sommeil de la raison produit des monstres. Et nous y sommes. Et donc, avant d'aller un peu plus loin et d'aborder le sujet, il est peut-être temps, mais ça ce n'est qu'un avis personnel, discutable, contestable, interrogeable à chaque instant, il est peut-être temps de sortir de la raison religieuse, des représentations superstitieuses, de l'argument d'autorité et de la pensée magique. Et peut-être aussi faire en sorte de désarrimer la norme juridique de la révélation. Ce n'est pas une nécessité absolue. ce qui pousse certains à dire qu'il est temps de déjuridiciser la révélation en tant que telle et laisser place, en ce qui concerne la production du droit, à une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Voilà. Bon. On en est peut-être loin. On peut y revenir. Je ne mésestime pas que tout législateur le fait en s'appuyant sur un principe métaphysique ou un principe transcendant. Mais cette volonté de tout vouloir ramener à la révélation, à la parole de Dieu, des mots qu'il faut aussi savoir déconstruire, expliquer, cerner, leur donner leur, avec un S, leur véritable sens. Bon, c'est tout le chantier de la refondation de la pensée théologique islamique maintenant, eu égard à la véritable crise et à la régression tragique. Alors aujourd'hui, il s'agit de fatwa et de mufti. Et parmi ces mots anxiogènes, effectivement, il y a le mot fatwa. Et si vous permettez l'impudeur de parler d'un cas personnel, du temps où l'émission 7 sur 7 existait avec Anne Sinclair, elle a invité, je ne me rappelle plus, quelqu'un, et elle lui avait dit « Ah, mais vous n'avez pas peur d'être victime d'une fatwa, c'est-à-dire une condamnation à mort ?» Et donc, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, y compris certains relayeurs d'opinion, voire les faiseurs d'opinion eux-mêmes, le vocable, le mot fatwa, désigne une condamnation à mort et un permis de tuer. C'est curieux qu'il y ait une rétraction de sens, que le sens soit rétracté uniquement à cette acception, qui d'ailleurs en toute rigueur, totalement antinomique avec la fatwa, puisque le fait de rendre licite le sang de quelqu'un ne peut pas se faire par fatwa. Ça se fait après discussion entre juges, cadis, etc. En tout cas dans l'obédience sunnite. Chez les chiites, c'est un cas un peu spécial sur lequel nous reviendrons. Et si j'omets telle ou telle chose dans le cœur de mon exposé, ben je compte sur votre sagacité pour me le faire savoir et on en parlera ensemble. Bon, alors, si ce n'est pas un permis de tuer, si ce n'est pas une condamnation à mort, ben, qu'est-ce que c'est qu'une fatwa ? Ben, étymologiquement, c'est une réponse à une situation donnée. Les auteurs latins auraient dit une responsa, une réponse. Une information, une expression informative, une édification même dans certains cas. Je prends comme référence la révélation coranique. D'ailleurs, le Coran, si je puis dire, si vous me permettez le mot, il vaut mieux le manipuler avec beaucoup de parcimonie. Et ne surtout pas commencer à brandir des versets coraniques comme ça, à l'appui de ce que nous voulons dire. Parce que les choses ne sont pas aussi simples, mais surtout, on corrobore une méthode qu'on dénonce par ailleurs. Les fous furieux de cette monstruosité idéologique et religieuse qu'on dénomme Daesh font la même chose. Ils extraient hors contexte tel ou tel passage et ils s'en prévalent pour commettre l'irréparable. Et vous avez d'autres qui disent « Ah oui, mais eux, ils n'ont rien compris. Et d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi ils extraient ce passage-là. » Pourtant, il y en a d'autres et qui sont merveilleux à côté. Et puis, ils les extraient aussi hors contexte. Alors que les versets coraniques sont en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit. Et il y a, si je peux utiliser un terme technique, une péricope, une scène herméneutique qui est décrite par les versets qui se suivent, et en réalité, c'est l'ensemble de la révélation, c'est le statut même de la révélation qui est à convoquer. Bon, alors, dussé-je me contredire, je vais faire la même chose, mais par abus méthodologique. Donc, je cite trois versets, ou en tout cas, les occurrences dans lesquelles il y a le mot ou le verbe avec la racine trilitaire Fatawaya, donc une voyelle. Le tout premier, si on va aller dans le sens des sourates présentées dans le corpus que nous avons entre les mains et qui n'est pas l'ordre chronologique, bien sûr, eh bien c'est le tout dernier verset de la sourate 4, la sourate des femmes, donc le verset 176, et qui commence par « On t'interrogera ou on te demandera une information quant à la dévolution successorale dans un cas particulier ». Et l'interlocuteur ici est le prophète. Donc, le terme arabe, je vais là aussi ne pas faire de la diglossie, comme disent certains. Quand il s'agit d'islam, il y a beaucoup de diglossie. Les termes arabes fusent et le plus souvent, on ne les traduit pas. Mais là, c'est simplement le verbe « istaftounaka ». Donc, on te demande ton avis, on te demande une information, une expression informative, une réponse. Quant à l'héritage, le cas précis est bien particulier, on ne va pas encore y revenir, de nos jours est totalement inique, mais pour l'époque où la femme était réifiée ou chosifiée ou faisait partie des biens à transmettre, eh bien faire d'elle un sujet qui peut hériter, c'était pour l'époque. En tout cas, un progrès spectaculaire dans les relations sociales. Mais il y avait aussi certaines catégories, certaines particularités, certaines situations. Et là, les compagnons du prophète sont venus lui poser certaines questions. Et la réponse peut toujours poser la question, qu'est-ce que c'est que cette révélation qui descend à point nommé ? Ce qui pose la question du Coran créé ou incréé, s'il était incréé de tout temps, ben nous sommes là aussi dans des situations où des versets coraniques descendent pour épouser les contingences humaines réelles, concrètes. Bon, le deuxième passage est celui du récit de Joseph, la sourate 12, c'est la sourate éponyme, verset 43, en réalité, il y a deux rêves. Il y a le rêve de Joseph lui-même, avec la lune, le soleil, la lune, et puis les étoiles qui se prosternent. Mais il y a aussi le rêve de Pharaon, pour faire simple. Et donc, c'est Pharaon qui a envie d'avoir une réponse, en l'espèce interprétative, de son rêve. Donc il s'adresse à Joseph, et là le mot est utilisé en tant que tel, une fatwa, ftouni, c'est-à-dire donne-moi une explication, une réponse. Le troisième cas que je voulais prendre, c'est l'histoire, là aussi, de la reine de Saba et la fameuse missive de Salomon, quand elle lui parvient. Et là, elle réunit son conseil et elle leur dit ben, « Donnez-moi des suggestions, des réponses. Que dois-je faire ? Dois-je répondre à sa sollicitation ?» Voilà. Donc ça, c'est l'étymologie du mot. Fatwa, c'est le fait de répondre à une situation inédite, le plus souvent. Et donc, en ce qui concerne les questions juridico-théologique, ou du moins simplement juridique, on est dans un contexte où la production du droit est arrimée à la révélation, en l'espèce coranique. Donc, on est dans du droit de type religieux, enfin d'inspiration religieuse. Et parfois, le scrupule poussé jusqu'à l'extrême chez les croyants et croyantes, et est-ce qu'on est conforme ou pas à la norme juridique religieuse ? Sous-entendu, est-ce que si je fais telle chose, pardon pour la présentation un peu plus prosaïque, est-ce que si je fais telle chose, je ne serai pas blâmable et je ne vais pas périr par le feu de l'enfer ? Et est-ce que, plutôt si je fais telle autre chose, je pourrais jouir des délices paradisiaques ? Enfin, en réalité, les choses sont un peu plus compliquées que cela, puisque les jurisconsultes musulmans ont compartimenté ou réparti les actes humains dans des catégories, 5 catégories, 2 antithétiques et deux fois deux. Ce qui est totalement blâmable, répréhensible, interdit, si on le fait, eh bien, on subit les foudres et le châtiment divin et on périt par le feu de l'enfer, donc on est puni, on est châtié en tout cas. Et si on ne le fait pas, ça n'entraîne aucune rétribution. Vous vous rendez compte dans la vision des choses qu'il y avait à ce moment-là. La deuxième, de l'autre côté, il y a des actes qu'on fait, drainent une rétribution. Et si on ne les fait pas, il n'y a rien. Et puis, à un degré moindre, il y a ce qui est haïssable ou exécrable, ou en tout cas qui n'est pas recommandable. Si on ne le fait pas, ça n'entraîne rien. Si on le fait, il n'y a pas le châtiment drastique du premier cas. Et de l'autre côté, son équivalent, c'est ce qui est plutôt agréable à faire, presque comme quelque chose de surérogatoire. Et entre tout cela, il y a ce qui relève de l'indifférent, disent certains. Il y a d'autres appellations pour ça. Et donc, ces compartiments d'actes humains doivent être régis par la législation d'inspiration religieuse, puisant dans la révélation coranique ce qui la codifie. Or, il se trouve que les versets coraniques dits principiels, normatifs, législatifs, prescriptifs, paradigmatiques, ne sont pas nombreux au regard de l'ensemble des versets du corpus. Il y a 6236 versets coraniques et les versets de type normatif sont de l'ordre de 200. Peut pousser un peu plus, jusqu'à 500 pour certains, avec le jeu de versets ambigus, amphibologiques, le terme technique. Chez les grammairiens, il y a une amphibologie quand un mot a un sens et son contraire, ou même une phrase. Quand je dis « je loue un appartement », on ne sait pas si je suis le bailleur ou le locataire. Quand je dis « j'ai honoré mon hôte », on ne sait pas si je suis l'invitant ou l'invité. Et des phrases de type « on a jugé les parents des enfants indignes », on ne sait pas s'il s'agit des enfants ou des parents. Donc, des exemples comme ça, on peut en donner. Il se trouve aussi que certaines compréhensions de tel ou tel passage coranique prêtent à équivoque. Il y a les tout premiers versets. Je continue à faire de l'exégèse sauvage que j'ai dénoncée tout à l'heure. Mais les tout premiers versets de la sourate 3, la famille d'Imran, Al-Imran, de 1 à 7, qui disent en substance, vous savez, dans l'écrit, sous-entendu l'écrit coranique, il y a des versets bien clairs, bien explicites, qui ne prêtent à aucune équivoque. Ce sont où ils émanent de la mère du livre, une expression qui renvoie à cet archétype céleste de la parole de Dieu qui est sur une table gardée, qui se trouve dans l'empyrée, dans la cosmologie religieuse de l'époque. Et vous avez d'autres versets qui sont ambigus ou équivoques. Ceux qui sont attachés à la scission, ils s'y attachent. Et les autres, ne connaissent leur sens que Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde. Et d'ailleurs, comme à l'époque de la révélation, à l'époque où on a commencé à consigner par écrit le Coran, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait même pas de point diacritique. Là aussi, ce passage en tant que tel est aussi amphibologique, parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu seul qui connaît leur signification et leur sens, ou est-ce que c'est Dieu et ceux qui sont enracinés dans une science profonde, parce que ça se poursuit par « disant Seigneur, nous n'avons de science que ce que tu nous as donné. Donc, est-ce que c'est Dieu et les savants, ou est-ce que c'est Dieu seul et les savants disent, ben, nous n'avons de science que ce que tu nous as donné. Bon. Voilà, c'est pour ça que même dans la langue véhiculaire de la révélation, il y a matière à interprétation, à compréhension selon la psyché du récipiendaire. Et donc les versets coraniques base de législation ne sont pas extensibles à l'infini pour épouser par la suite les situations les situations dans lesquelles se trouvent les croyants par la suite. Alors, les jurisconsultes vont donner plus tard, et notamment sous les Omeyyades. Les Omeyyades, c'est 661-750, mais par la suite, dans la première partie ascendante, ou la phase ascendante du califat abbasside, en gros, les Abbassides, c'est 750, on peut aller jusqu'à un siècle plus tard, peut-être aller, pourquoi pas arrêter avec la mort d'Ibn Hanbal, le maître éponyme de la quatrième école, en 855. Donc un siècle à tout le moins. Période Omeyyade et le premier siècle de la période Abbasside, ce temps-là était le temps de l'élaboration du corpus juridique qu'on appelle maintenant la charia, mais à mon avis c'est à la fois une acception drastique récente à la fin du 19e siècle, parce que à un moment donné on ne donnait pas au mot charia son sens actuel. Je cite toujours l'exemple de Suleyman le Magnifique. Pas que lui, même les monarques ottomans étaient des législateurs. Mais Suleyman le Magnifique, 1520-1566, un des règnes les plus longs de l'histoire, mais pas le plus long, était connu ici, chez nous, en Europe, comme le Magnifique, affublé de cette épithète-là. Mais ailleurs, il avait deux autres épithètes. Le bâtisseur, et le bâtisseur, parce qu'il y a la Suleymanie, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a reconstruit ou restauré les remparts de Jérusalem, entre autres, mais il était aussi connu comme le législateur. Donc, Suleyman al-Qanouni, ça sous-entend que c'était aussi, j'exagère à peine, c'était aussi selon le bon vouloir du souverain de produire du droit. Et à ce moment-là, on ne s'embarrassait pas d'une quelconque législation conforme au désir politique de Dieu, comme on dit, dont certains de nos jours ont cru pénétrer les arcanes et les connaissances de ce désir et de vouloir les imposer à leurs propres semblables dans des formations politiques. Et donc l'élaboration du droit, si nous voulions quelques dates, il vaut mieux peut-être aller de la mort de Abu Hanifa, le premier maître éponyme donc de la première école, l'école qui porte son nom, l'école Hanafite. Il est mort en 767. Le dernier, Ahmed ibn Hanbal, mort en 855. Donc sur cette période-là, on a de la production, du droit, d'une compréhension, ce qui sous-entend qu'il y a une construction humaine. Et on l'oublie. Cette construction humaine est là. Et du coup, telle ou telle situation inédite pouvait apparaître, et notamment avec le contact d'autres peuples, d'autres peuples habitant d'autres contrées, d'autres civilisations, d'autres cultures. C'est pour ça que le fait de tenir compte de la coutume fait partie des sources du droit islamique, qui sont selon la version standard, la révélation coranique, la tradition prophétique, même si là il y a aussi un débat, et puis le consensus de la communauté, mais la communauté elle est devenue nombreuse, donc à travers ses représentants, ceux qui savent lier et délier, voilà la formule. Alors, ils savent lier et délier quoi ? bien, enfin, désintriquer les chevaux des questions complexes. Ce qui explique que dans l'obédience sunnite, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de structure cléricale, il n'y a pas d'autorité centrale. Les affaires sont dévolues à ceux qui savent lier et délier. Bon. Et le droit coutumier, bien entendu, le raisonnement analogique, parce qu'on aura telle ou telle école qui privilégie le raisonnement, l'école dite de l'opinion. Et bien sûr, après Abu Hanifa, il va y avoir Malik, mort en 796-97, lui qui privilégie plutôt le comportement des habitants de Médine, Yathrib qui deviendra Médine, parce que ses compagnons étant encore proches du moment mohammadien, du moment au sens hegélien du terme, du moment prophétique, et puis on pense que les quatre premiers califes appelés les califes de la rectitude, les califes de la bonne guidance, de l'orthodoxie. Et je puis vous assurer que ces appellations ne sont venues que 2 siècles et demi plus tard. De leur vivant, on ne les a jamais appelés les califes bien guidés. C'est plus tard que c'est venu ainsi. Donc on pense que d'abord les affaires, la vie des Médinois devaient être prises comme un modèle. Donc c'est l'idée de Malik lui-même. Par la suite, il va y avoir Shafi'i, mort en 820. Shafi'i dit une parole extraordinaire de nos jours en ce qui concerne l'éthique du débat, de la discussion, de la controverse. Il disait « Mon avis, je le crois juste, mais il peut être entaché d'erreur, et l'avis de mon contradicteur par construction, je le crois faux, mais il recèle sa part de vérité. » Et on en est loin maintenant, malheureusement, de cette approche à la fois d'humilité et aussi de ne pas se croire seul dépositaire de la vérité, seul détenteur de la version ultime de tel ou tel aspect. Et bien entendu, Ahmed ibn Hanbal qui mourra en 855. Cette construction-là humaine, ce temps d'élaboration, était aussi un temps de production de fatwa. Pour l'anecdote, le frère de Malik rapporte que, je ne me rappelle plus de la chose autour de laquelle un Médinois voulait s'informer, enfin voulait avoir une réponse, et il est allé demander à quelqu'un dont il pense, parce que je le dirai tout à l'heure à la fin de mon exposé, sur le rôle des mouftis, donc le moufti c'est celui qui est habilité à décréter des fatwas. Donc il cherchait quelqu'un pour le rassurer sur un point déterminé. Et celui-ci ne voulait pas. Il lui dit « Non, moi je ne suis pas apte, va voir un tel. » Et si l'anecdote est réelle, il a été voir 120 personnes et le 119e l'a ramené au premier. Donc ça a fait une boucle. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'à ce moment-là, on avait des scrupules à dire à quelqu'un « Écoute, tu dois plutôt agir de telle sorte plutôt que de telle autre sorte. » Et puis, à supposer que le hadith, l'aphorisme prophétique ne soit pas apocryphe, on attribue au prophète d'avoir dit eh « Ceux qui se précipitent sur les fatwas précipitent leur chute en enfer. » C'est-à-dire, soyez très, très prudents, très circonspects quant à ces facilités à dire, à expliquer, à donner votre avis sur telle ou telle situation. Bon, de fait, après donc les quatre premiers califes, l'Empire grandira. On commence à penser que Muawiya Ier, donc fondateur de la dynastie Omeyyade, ce n'est peut-être pas un modèle de piété, donc on ne suivra plus ce qu'il pourra dire. Et puis même, c'est une tradition assez longue dans l'histoire chez les sunnites, c'est de ne pas considérer étonnamment que le calife peut cumuler le principat et le pontificat. C'est-à-dire que ces avis de type religieux, de type juridique, peuvent, même dans certains cas, doivent ne pas être pris en considération et qu'il vaut mieux faire confiance au corps des oulémas. Les oulémas, terme générique pluriel, les docteurs de la loi, les scolarques, enfin les savants, donc les savants en matière religieuse. Et donc, Moawiyah et ses successeurs n'étaient pas dignes de décréter ce qui est licite, illicite, conforme ou pas à la norme religieuse. Donc, d'où la naissance des écoles par, justement, ces volontés de fatwa. Quand on voit le scrupule de l'époque et maintenant, pour faire la boucle avec le début, pourquoi est-ce qu'on pense qu'une fatwa est une condamnation à mort? Parce qu'il y a eu 3 fatwas de sinistre mémoire, enfin 3, les plus connues. La première est celle du 23 février 1998, d'abord celle du 14 février 1989, celle de Khomeini, rendant licite le sang de Salman Rushdie suite à ce qui a été perçu comme un blasphème. C'est une régression terrible, parce que le prophète de l'islam lui-même, battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, des éléments putrides sur la tête, lapidé à coups de pierre quand il est allé à Taïf en 619, il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », reprenant la parole de Jésus, connaissant la passion. Voilà, plus tard, il va y avoir des individus plus royalistes que le roi ou voulant être plus prophète que le prophète, donc voulant oxyre celui qui a osé, dans une fiction littéraire, porter atteinte à l'honneur du prophète. Et puis nous avons d'autres exemples par la suite, hélas. La deuxième fatwa est celle du 23 février 1998, initiée par Ben Laden et co-signée par Ayman Zawahiri, qu'on francise par Zawahiri, les deux personnages qui vont fonder la base qui est le nom francisé français de Al-Qaïda. Pour rendre aussi licite le sang des innocents américains, enfin des civils américains, parce que, même si ça n'a pas été dit comme ça, ce serait des dommages collatéraux d'une situation de guerre dès lors que l'administration américaine mène elle-même une guerre impérialiste contre les musulmans, les croisés, etc., ce que nous connaissons. Et puis il y a une fatwa qui a condamné à mort un chiite irakien qui par la suite changera de nom, se fera appeler Joseph Fadel, parce que tout simplement il s'est converti au christianisme catholique. En somme, on châtie quelqu'un pour un délit d'opinion, de conscience. Donc, voilà, je cite les 3 grande fatwa connue. Joseph Fadel est venu en France en 2001 et en 2003, il a commencé à parler de lui, puis il a composé un ouvrage intitulé Le prix du sang, quelque chose comme ça. Et heureusement, il témoigne à visage découvert et normalement, l'État français, les pouvoirs publics doivent assurer sa sécurité. Alors, Taslima Nasrin a été victime d'une fatwa aussi, dans l'ordre que nous sommes en train de dire. Mais, encore une fois, hélas, le mot, comme djihad, on le verra plus tard ailleurs dans d'autres enceintes, que ces mots-là ont perdu à jamais, dans certains cas, leur véritable sens. Et d'aucuns parmi les intellectuels musulmans disent « on va tout faire pour leur donner leur sens originel pour qu'ils recouvrent leur sens premier. Et d'autres disent, ben non, les mots naissent, vivent, et puis ils meurent de leur belle mort. À titre personnel, je ne suis plus sûr que le mot djihad puisse recouvrer son sens premier et spirituel aussi. Bon, donc fatwa, aujourd'hui, on essaye au moins de sauver d'autres acceptions et d'autres sens. Selon une anecdote, une petite boutade, il y a une brave dame qui a perdu une bourse dans un marché. Donc elle se promène dans un souk pour aller faire quelques commissions. Et elle a perdu donc sa petite bourse. Et elle se lamentait, elle commençait à prier, « Oh Seigneur, fais en sorte que ça ne tombe pas entre les mains d'un moufti. » Et on lui a dit, « Mais pauvre malheureuse, tu devrais plutôt prier le contraire. » Elle a dit, « Non, 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 lui, il est capable de lui trouver une fatwa. » Donc ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est qu'une fatwa. Je me trouve dans une situation inédite, non prévue par les références scripturaires premières, en l'occurrence la révélation coranique et le corpus des aphorismes prophétiques. Et donc on réfléchit. Alors je fais le passage maintenant de la fatwa au mufti. Donc c'est celui qui est habilité à donner son avis, à décréter des fatwas. Et si je reprends l'exemple de cette brave dame, elle pense que si elle tombe entre les mains d'un citoyen, à l'époque la citoyenneté était confessionnelle aussi, d'un musulman lambda ou d'une dame, ben, quand on est pieux ou pieuse, on ira voir l'équivalent du bureau des objets trouvés. Mais un mufti, il a suffisamment de finesse, de compétences et de connaissances pour lui trouver la fatwa, pour la garder. Donc c'est ce qui explique la prière et les lamentations de la dame. Alors, un mufti, en réalité, doit obéir à ou remplir 7 critères. Alors, comme l'Alzheimer me guette, j'espère ne pas oublier les 7. Le premier, c'est d'être un mujtahid. Pardon pour le terme arabe. Donc, un mujtahid, c'est quelqu'un qui pratique l'ijtihad. Il y a le T. Donc, pas le djihad, pas un mujahid, mais un mujtahid. Il y a le T. Qu'est-ce que c'est que l'ijtihad par rapport au djihad? C'est un effort dans un cas comme dans l'autre. Donc, ce n'est pas une guerre sainte. D'ailleurs, même dans les traités de polémologie les plus virulentes, en contexte islamique, jamais le djihad n'a été traduit par guerre sainte. Jamais. D'abord, le djihad n'est pas une guerre. Enfin, il y a des fous furieux qui sacralisent la violence et qui tuent au nom de Dieu. Ça fait partie, certes, du champ sémantique belligène ou martial, puisque le petit djihad ou le djihad dit mineur, l'effort mineur, est aussi trimé, fagoté, travaillé, guerroyé, bien entendu. Mais en réalité, le véritable djihad, c'est l'effort majeur, l'effort salvateur, qui consiste à juguler ses passions, réguler ses désirs, maîtriser ses pulsions, etc. Donc voilà, en gros, pour certains exégètes, et notamment les mystiques parmi eux, ce qui est voulu et recherché par le djihad. Si on ajoute le T, le djihad devient un effort intellectuel, cérébral, mental, jusqu'à l'épuisement, disent certains, puisqu'il y a une idée d'intensité, là c'est intensif. Et celui qui pratique l'ijtihad est un mujtahid. Alors, pratiquer l'ijtihad, pourquoi? C'est pour faire ce qu'on appelle, alors j'ai promis de ne pas faire de la diglossie, mais là le terme s'impose par lui-même, ce qu'on appelle l'istinbat, c'est-à-dire aller inférer, c'est de l'inférence, ce sont des découvertes ou des déductions. C'est un raisonnement déductif Ce sont des interpolations aussi entre deux situations, mais en tout cas, il y a là une déduction, un raisonnement déductif. Et c'est ça qui est voulu par l'effort intellectuel, conformément à un aphorisme bien connu concernant un personnage appelé Mouad qui devait aller au Yémen pour expliquer la teneur et le contenu de l'apostolat mohammedien. Et donc la mission et la révélation, le contenu aussi de la révélation coranique. Bon, ça c'est le premier point. Donc il doit être quelqu'un de compétent pratiquant, ou connu comme pratiquant l'effort intellectuel. Alors le deuxième point, c'est bien entendu de connaître, sinon la totalité du Coran, au moins la totalité des versets coraniques de type prescriptif. Bon, mais à ce moment-là, les mujtahids ou les savants religieux connaissaient et retenaient par cœur l'ensemble des versets coraniques. Il y a une autre boutade qui dit « Celui qui a fini par apprendre par cœur le Coran a scellé par là même son ignorance s'il ne se met pas à le commenter, à l'interpréter, à sonder ses sens, donc un travail exégétique après, un travail herméneutique par la suite. » Donc ça, c'est le connaître les versets coraniques de portée législative, et surtout connaître, donc troisième point, ce qu'on appelle les circonstances de la révélation. C'est important de connaître dans quel contexte, dans quelles circonstances, quelles sont les causes qui ont présidé à la descente de tel ou tel verset coranique. Je mets encore une fois la question épineuse, éminemment théologique, de ces descentes qui, encore une fois, viennent à point nommé pour répondre à une situation particulière. Alors, quatrième point, il doit être un fin philologue et un fin connaisseur de la langue arabe, véhiculaire, donc de la révélation, et puis connaître la syntaxe, la grammaire arabe, mais aussi tout le champ lexicographique et lexicologique. Donc, devient non seulement un linguiste et un philologue, mais quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la langue arabe. Quatrième ou cinquième point, c'est une bonne connaissance, si ce n'est une totale connaissance, des hadiths, donc des aphorismes, des maximes, des dires du prophète. Moi, quand je vois le recueil dit authentique de Bukhari, et si on lui adjoint celui de Muslim, donc ça donne une idée où la mémoire des futurs muftis va aller, d'autant plus qu'il est, de mon point de vue, indéniable qu'il y a des hadiths apocryphes, même si Bukhari, mort en 870, d'aucuns disent qu'il était de bonne foi dans sa collecte, mais de fait, eu égard au nombre compilé, il a dû en avoir de la fabrication. Bon. Mais cela doit être connu par les préposés à décréter des fatwas plus tard. Oui, connaître les écoles juridiques, les, pas les quatre. D'ailleurs, quatre, ce n'est pas garanti par le divin. Ça aurait pu être trois comme ça aurait pu être cinq. Et ça a failli être cinq. Ça a failli être trois. Et puis, parce que l'école hanbalite commençait à tomber en désuétude. Elle a été ressuscitée, notamment par Ibn Taymiyyah, mais pas que. Ibn Taymiyyah est mort en 1324-26, je dirais peut-être 1328, et puis, bien entendu, par le wahhabisme plus tard. wahhabisme, c'est le 18e siècle. Je le dis, parce que d'habitude, je le dis ailleurs, et ce n'est pas tout à fait le sujet, mais on a deux contemporains. Un né en 1703 et mort en 1792. 89 ans, pour le 18e siècle, est une bonne espérance de vie. Il a un contemporain plus jeune que lui de 21 ans, qui est né en 1724, mort en 1804, sauf que ce n'est pas dans le même contexte. Donc le premier, son intelligence, sa vision du monde, les Allemands auraient dit une Weltanschauung, sa production intellectuelle, sa volonté de laisser quelque chose à la postérité, l'a amené à écrire le livre des ablutions, le livre des grands péchés, comment se rendre à la mosquée, et un traité, je ne suis pas condescendant en disant qu'il est de bonne facture, parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Bon, ben c'est comme ça. Son contemporain, ailleurs, son intelligence, sa vision du monde, sa volonté de laisser quelque chose assez semblable et à la postérité, l'a amené à écrire la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Et après, on s'étonne sur la divergence qu'il y a au niveau intellectuel. C'est dire que la séquence, moment Descartes, moment Freud, a été totalement ratée. Et au lieu de la rattraper, de l'ingérer et de la dépasser, en la critiquant, eh bien non, on s'était plu à dire qu'avant 622, c'était l'obscurantisme, et après 622, ce sont les lumières divines, dont nous sommes seuls dépositaires. Bon. Donc, ça aurait pu être trois, puisque l'école juridique hanbalite a failli disparaître. Il y aurait eu une extinction d'espèces, si je puis dire, mais après, elle a un peu ressuscité. Et à une autre école, l'école de l'Ausai, qui était, dont on l'utilisait, enfin, dont on se référait à la vision de son maître, l'Ausai, mais elle a disparu. Bon, donc cinq écoles, trois écoles, quatre maintenant qui sont restées, encore une fois, ce n'est pas garanti par le divin. Et puis, supposons un instant que ce furent les contradicteurs de ses maîtres qui avaient triomphé. Ben, nous serions en train de sacraliser telle ou telle disposition antinomique par rapport à maintenant. C'est pour vous dire, encore une fois, l'élément humain dans ce qu'on appelle, comme ça, sans trop réfléchir, la charia. Alors, je suis arrivé à quoi? 5 points, à 6. Merci, il en reste 1. Donc, voilà, vous suivez bien. Eh bien, le 7e... Ah oui, connaître les fatwas de ses prédécesseurs. Donc, du coup, un mufti d'une époque donnée, ben, il va y avoir un empilement, un amoncellement, une collection de fatwas, ben, les fatwas inédites, j'entends, pas les classiques. Vous savez, le fait de jeûner selon l'observation du croissant lunaire quant à l'observance du jeûne, c'est aussi une fatwa. Et de tout temps, hélas, il y a les querelles entre modernistes, scientifiques, rationalistes et les traditionnalistes de l'autre côté. Ben, il y a eu une fatwa, je finirai avec ça, du Conseil européen de la fatwa, dont le siège est à Dublin, créé en 1997. Et à ce moment-là, on a dit il vaut mieux que, mais par une fatwa bien décrétée, bien établie, etc., privilégier le calcul astronomique. Donc on est capable, et heureusement, de déterminer la conjonction, l'apparition, en tout cas du croissant lunaire, la naissance du croissant lunaire, qu'il y ait nuage ou pas, qu'il vente ou qu'il neige ou qu'il pleuve. Et ça, on peut le savoir jusqu'à l'an 2100, si on veut, mais on peut aller pousser les algorithmes jusqu'à ce qu'on veut. Mais en même temps, il y a ceux qui tiennent mordicus à ce que, laissant place à la tradition, il faut observer le croissant lunaire. Et quand on leur objecte que dans certains cas, ben, il y a des nuages, on ne peut pas le voir, ils disent que ce n'est pas grave, on complète la lunaison précédente à 30. Et ce qui donne toujours les querelles cette année, bon, il n'y en a pas eu, tant mieux. Mais je souligne aussi, je suis peut-être un peu mauvaise langue et je ne devrais pas, ben, le manque d'autorité des hiérarques musulmans, soit dans notre pays ou ailleurs, ben, pour imposer le calcul scientifique, parce qu'il y a eu quand même une fatwa. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, en contexte islamique sunnite, les fatwas n'engagent que celui qui a été séduit par l'argument qui la sous-tend. Donc elle n'est pas contraignante. On vient voir un moufti, on lui dit « j'ai telle ou telle situation, est-elle conforme à ce que Dieu aurait souhaité ou voulu de moi ? Est-ce que c'est conforme au désir divin, au désir juridique ou politique de Dieu ?» Le moufti, bon, va pratiquer l'ijtihad, il va réfléchir, il peut réagir tout de suite, mais il peut lui dire « donne-moi un délai, je vais consulter et les ouvrages, je vais poser peut-être d'autres questions, etc. » Et puis au bout d'un moment, il vient, il lui dit telle chose. Mais celui qui est venu poser la question n'est pas tenu de le suivre, ce qui explique la multiplicité des fatwas déjà, et le moufti en question ne peut pas, enfin, je ne sais pas, s'auto, il n'y a pas une sorte de saisine, c'est, il répond à une situation, mais il ne l'impose pas. Alors, chez les chiites, les choses sont un peu complexes, et quand on dit complexe, soit on scoltine l'explication, soit on se défausse uniquement sur le fait d'avoir dit que c'est complexe. Donc, sans complexe, en ce sens que, et hormis la question de l'effusion de sang qui, elle, nécessite, j'allais dire, jugement, etc., ce qui fait que la fatwa de Khomeini était totalement non canonique, si je puis dire, même par rapport à la version standard des fatwas, comme les imams sont considérés quasiment comme impeccables, infaillibles, parce qu'ils sont descendants via Fatima du prophète lui-même et qu'il y a le souffle prophétique qui est resté dans l'imama. Donc, quand ils décrètent une fatwa, ils ne se sont pas trompés, du coup. Et donc, on les suit sur telle ou telle chose. Et là, il y a une sorte de collusion entre l'imama et le fait d'être moufti. On est, encore une fois, en contexte chiite. Et je répète, en contexte sunnite, il y a eu quelques fatwas célèbres. Mohamed Abdou, mort en 1905, comme azharien, c'est-à-dire on dit sorbonnard, donc comme un azharien, donc tout ce qu'il a pu dire, c'était avant 1905. Alors il a eu 3 fatwas. D'abord sur la viande dite licite, illicite, la fameuse viande halal. Pour lui, dès lors que ce qui est prohibé pour les croyants, c'est de manger d'une viande d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu, eh bien, celle qui est abattue d'une manière neutre peut entrer dans le domaine de ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'indifférent. Et a fortiori, pour les voyageurs et pour ceux qui ne sont pas dans les sociétés majoritairement musulmanes. Deuxième point, c'était toutes les idioties relatives à la polygamie. Enfin, le terme technique, c'est tétragynie. Parce que si on dit polygamie, on pourrait comprendre que c'est dans les deux sens et que c'est un nombre indéfini. Non, tétragynie, c'est une possibilité à l'homme d'avoir 4 épouses. Donc, tenons compte du fait que, dans le cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, il vous est possible d'épouser parmi celles qui vous plairont une, deux, trois ou quatre femmes, à condition que vous soyez équitable. Et comme vous ne pourrez être équitable, alors une seule épouse vous est recommandée. C'est la conduite la plus proche de la justice. Mais Dieu n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme. Vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si tel était votre désir le plus ardent. Donc, tenons compte, j'allais dire, de la totalité du texte, in extenso, c'est dit, bon, l'approche est sibylline, elle est peut-être un peu alambiquée, mais il y a là une incitation claire, voire une injonction à la stricte monogamie. Bon, voilà, il a réfléchi comme ça. Et la troisième fatwa, c'est le prêt à intérêt. C'était du genre, dès lors qu'on n'est pas dans l'usure qui a servi les êtres, donc, il a fait un distinguo entre l'usure et puis l'activité bancaire qui fait que, bon, ben, l'argent se loue aussi comme on aurait loué du foncier. Ben, et à ceux qui l'ont suivi, ça a soulagé beaucoup de personnes et d'autres ne l'ont pas suivi, bien entendu. Donc, encore une fois, la fatwa n'engage que celui qui a été séduit par les arguments qui sous-tendent la dite fatwa. Je finirai par quelques impéricies d'analyse et quelques stupidités. On a un imam qui a cru bon, pour régler le problème dit de la mixité dans le travail, et surtout dans un bureau où il n'y a qu'un homme et une femme, donc deux collègues, qu'elle lui donne le sein. Et c'est pour vous dire où mène l'intelligence des hommes quand il s'agit de religion, dès lors que c'est le cas, donc du coup elle devient sa mère par allaitement, et du coup, il n'y a plus rien à craindre de cette cohabitation. Alors, des histoires de cet ordre, des fatwas de cet ordre, de pacotille, ben malheureusement, il y a pléthore maintenant. C'est inversement proportionnel à l'intelligence, j'allais dire, des grands mouftis de l'histoire. Et on a une qui est connue en Iran en 1873, qui était de rendre le tabac interdit canoniquement. Bon, ça a embêté le Shah à ce moment-là, parce que lui-même, dit-on, était un amateur de cigares, puisqu'on est au 19e siècle, mais surtout, il y avait des contrats avec les compagnies de tabac. Donc, hier, j'ai dit que j'allais arrêter là, mais vous voyez bien que le sujet est intarissable, parce qu'il y a, hélas, et mille fois hélas, des fatwas sur ordre. Ce sont des commandes, commanditées par le prince. Trouve-moi une fatwa pour tel ou tel aspect. Et quand le corps des oulémas est solide et pas inféodé au pouvoir, ben, il n'y en a pas. Et quand c'est pas le cas, ça rappelle Napoléon quand il disait « Où sont mes gendarmes, mes évêques et mes préfets ?» Parmi les fatwas presque sur ordre mais qui n'avaient pas abouti, il y en a une, celle de Haroun al-Rachid, le calife abbasside, immortalisé par les mille et une nuits, peut-être la 674e, c'est là où il fait apparition, j'allais dire, dans le récit, dans le conte. Et il avait comme épouse Zubaïda, il voulait avoir une co-épouse. Co-épouse, pas une courtisane, une concubine. Et elle s'y était opposée, parce qu'elle était lettrée, instruite, intelligente. Il lui dit, bon, je m'oppose, et puis il n'y a aucune raison. Donc il a consulté le corps des oulémas, et ils lui ont rétorqué quelque chose comme maître du monde aux croyants, commandeur des croyants, puisqu'on ne disait pas sire à ce moment-là à Bagdad. Si Zubaïda s'oppose, nous on n'y peut rien, parce que il y avait le fait que la première épouse doit donner son consentement, etc. Bon, l'histoire ne nous dit pas comment les choses se sont poursuivies par la suite. D'aucuns disent qu'il a épousé quand même une en mariage, en noces, Et sinon, on était encore dans une vision du monde où on a le harem et des concubines et des courtisanes. Bon. Voilà, donc moi j'arrête là parce que je pense que j'ai assez parlé comme ça. Merci de m'avoir écouté, vraiment, et je suis à votre disposition.
Bonsoir à tous. Yachir, ahlan wa sahlan. Moi j'avais une question très précise, vous l'avez souligné, on assiste, en tout cas dans l'histoire du XXe siècle, à une déliquescence de l'autorité religieuse en islam. Ça me semble, vous l'avez mis en exergue. On a aujourd'hui au sein de la tradition chiite une grande culture du mujtahid. Et dans la doctrine intellectuelle islamologique française, on ne met pas du tout l'accent sur la force spirituelle du chiisme. On a la chance d'avoir en France Henri Corbin et son disciple Christian Jambet qui souligne avec brio la grandeur de l'intelligence spirituelle du monde chiite, qui me semble aujourd'hui d'un autre niveau spirituel, théologique, qu'on trouve aujourd'hui du monde sunnite. Ce qui m'attriste, c'est lorsqu'on voit l'histoire d'Al-Azhar, sur tout ce qu'a pu produire l'islam traditionnel sunnite, et de voir l'état et la léthargie dans laquelle se trouve aujourd'hui l'autorité religieuse. J'aurais bien aimé que vous nous précisiez et nous expliquiez aussi un peu la régression intellectuelle spirituelle du monde sunnite. Je finirai mon propos sur la question de la fatwa de l'imam Khomeini. Il faut mettre, et je le dis devant l'auditoire, en perspective avec la rivalité géopolitique qu'il y avait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'imam Khomeini a érigé cette fatwa pour reprendre le leadership politique spirituel de l'islam. Et on ne comprend pas, en fait, la fatwa de l'imam Khomeini si on ne la remet pas dans une perspective géopolitique et de rivalité, justement, partisane. Et on a mis l'accent essentiellement sur la dimension religieuse de la fatwa, alors que la dimension politique profane, elle était, à mes yeux, primordiale. Voilà.
Alors, cher monsieur, trois points, si j'ai bien noté et compris. Le premier, la grandeur, l'acuité, le brio de l'obédience chiite dans l'islam, et que tout ça est méconnu, hélas, hormis les initiés, et à mon avis, ça mérite d'être exhumé, reconnu, et pas uniquement à l'école pratique des hautes études ou à l'école des hautes études en sciences sociales, vraiment. Et au-delà. Et d'ailleurs, le rayonnement dépasse certes ces institutions, je le dis sans flagornerie aucune, mais il y a des trésors pour l'humanité. Et le grand Henri Corbin, notamment, mais pas uniquement, de l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, composé la toute première fois en 1958 et réédité depuis plusieurs fois, reste un exemple d'intelligence hybride du cœur et de l'esprit. Bien. Heureusement qu'il y a son disciple Christian Jambet, d'accord. Et mais même avant, j'étais peut-être injuste en disant que toute la séquence moment Descartes, moment Freud était totalement ratée. Il se trouve que Molla Sadra Shirazi, pour certains, est l'un des plus grands métaphysiciens de tous les temps. Réactualiser Molla Sadra de nos jours, ce ne serait pas inutile. La régression maintenant du monde sunnite. J'aime à rappeler la double métaphore, la métaphore du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, par fonction, par vocation, par profession, autopsie des pouilles mortelles froides, des cadavres, pour comprendre les raisons de la mort. Bon. Mutatis mutandis, on est dans le temps froid de l'histoire. C'est le temps froid. Et l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. À mon avis, il vaut mieux sortir d'une vision du monde et de l'histoire linéaire, nombriliste, européocentriste, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge, sans le qualifier de latin, et en Renaissance. Ce qui fut Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres. Et j'entends par là l'empire du milieu, et peut-être aussi d'autres civilisations, et aussi la civilisation arabo-persano-perso-islamique. Et le chirurgien opère in vivo. il a à cœur de sauver son patient. Et au moment où il est en train d'opérer, il ne s'embarrasse pas d'autres considérations que de sauver le malade. Là aussi, mutatis mutandis, on est dans le temps chaud de l'actualité brûlante. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une régression terrible, voire une régression dans la régression. Et je vous explique pourquoi. Et donc, à mon avis, pardon pour la prétention qui sous-tend mes propos, je vous réponds en chirurgien, donc, parce que je ne suis pas chirurgien, je n'essayerai surtout pas. Il me semble qu'il y a trois mots à Maux, deux en contexte sunnite, un mal en contexte chiite qui est venu polluer ou aggraver la situation des sunnites. Le premier, vous l'avez compris peut-être dans ma présentation tout à l'heure, c'est le wahhabisme, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui, suite à une alliance au sens premier du terme, alliance épousaille, hein, va faire en sorte qu'une famille, la famille des Al-Saoud, en manque de légitimité, va asseoir son pouvoir dans le Najd, la partie centrale de la péninsule arabique, qui depuis lors va porter son nom. Monaco, on ne dit pas la principauté grimaldienne, on dit la principauté de Monaco. Là-bas, on dit le royaume d'Arabie saoudite. Bon, donc ça, c'est le premier, j'allais dire, problème sérieux. Et ça aurait pu rester circonscrit dans le temps et dans l'espace. Mais on a cru bon de propager, de faire proliférer des idées comme « il vaut mieux obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous, fût-il injuste, que de fomenter des troubles et des scissions ». Bon, parce que les troubles vont encore provoquer plus de désordre, etc., plus de sang, plus d'effusion de sang, etc. Encore une fois, les choses là auraient pu rester circonscrites, mais il se trouve que la manne pétrolière et l'argent qui en est résulté a permis, dans une logique de la meilleure défense étant l'attaque, je vais porter ces idées-là ailleurs, et notamment en Afrique, dans le nord Nigeria, ailleurs. Il vaut mieux que le minaret soit plus haut que le clocher, etc. Bon. Deuxième mal, je le dis parce que je le pense, d'aucuns ne partagent pas mon point de vue, ce sont les frères musulmans. En 1928, 4 ans plus tard, 4 ans après l'abolition du califat par la GANT, la Grande Assemblée nationale turque, le 3 mars 1924, et le 6 mars, 3 jours plus tard, Mustafa Kemal Atatürk proclame l'abolition du califat. Il y a ceux qui s'étaient réjouis, qui s'étaient félicités, qui avaient regretté même que ce fût tardif, et d'autres qui avaient vécu cela comme un traumatisme terrible. Et au lieu de s'instruire de l'ouvrage de Ali Abdelnazir, paru en 1925, l'islam et les fondements du pouvoir, eh bien non, on a un jeune instituteur. Ce n'est pas dépréciatif dans ma bouche de dire un jeune instituteur, mais en tout cas, a cru bon de recouvrer le califat. On aura beaucoup de choses à dire là-dessus, je me tairai là. Le troisième mal étant donc la révolution khomeiniste ou iranienne ou islamiste ou islamique, et qui devait être aussi exportée parce qu'il est dans l'ordre naturel des choses de ne pas rester d'une manière circonscrite. Avec un slogan creux comme étant « l'islam est la solution ». Même Foucault s'y était pris. Ah ben oui, il y a de la spiritualité dans les révolutions et peut-être que dans ce matérialisme athée, etc. Bon, nous voyons aussi ce qu'a pu donner. Bien. Alors, pourquoi régression dans la régression ? Parce que j'ai cité Soléman le Magnifique, 5 ans après sa mort, il y aura la bataille de Lépante qui va mettre fin à la thalassocratie ottomane en Méditerranée. Le pouvoir sur les mers, l'invincible armada, et puis X facteurs ont concouru à la stagnation. un facteur politique, un facteur économique, un facteur théologique, un facteur culturel, un facteur militaire et un facteur étonnamment géographique aussi. Parce que des étendues terrestres désertiques ne peuvent pas être gouvernées comme des fjords pour des petits royaumes où le cabotage peut réussir les moyens de rapprocher les moyens de communication. Bon, mais même avec cette décadence, cette stagnation, ce coup d'arrêt, cette décadence, il va y avoir une régression et par la suite, il y aura un soubresaut, un éveil, une nada, une renaissance. Tout au long du 19e siècle, n'oublions pas que Tahtawi, venu à Paris, va composer à son retour. Tahtawi, il est venu en 1826, à l'âge de 25 ans. Il partira subjugué par Paris, il va traduire Télémaque de Fénélon, il va traduire beaucoup de choses, et il composera son ouvrage « L'or de Paris », l'or du métal. Bon, mais puis les pères de la nata, de la Renaissance. Bon. Simplement, cet élan de foi, d'intelligence, d'espérance n'a pas abouti. Et on arrive dans les années 30 en Égypte, 1937, il y aura quelqu'un du nom de Ahmed Ismail Adham. Il va composer un ouvrage intitulé « Pourquoi je suis athée ?» Et que penseriez-vous, mes amis, qu'on ait fait de lui ? L'a-t-on bastonné, l'a-t-on flagellé, l'a-t-on fouetté, l'a-t-on brûlé vif dans une cage, l'a-t-on décapité? Bon, rien de tout cela. Au bout d'un certain temps, il va y avoir un livre intitulé « Pourquoi je suis croyant ?» Et le débat dans l'Égypte des années 30 se faisait par ouvrage interposé. Dans le calme, dans la sérénité, c'est le débat intellectuel. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Alors vous me demandez pourquoi il y a une régression dans le milieu sunnite. Pour l'instant, je suis dans le constat. L'encéphalogramme est plat et c'est même mortel. Et en plus, il y a une régression par rapport aux années 30. On a quelques prédicateurs ou des télécoranistes, comme on le disait pour les évangéliques américains, et qui viennent dire n'importe quoi sur les chaînes de télévision. Et la multiplication de ces fatwas sur ordre, comme dit Riyad Saïdaoui, quelqu'un qui s'est intéressé à ces choses-là, qui les a sériées, font que la question devient être ou ne pas être, trois points de suspension, musulman au XXIe siècle, si on voit qu'au niveau de la régression intellectuelle, ce qu'il en est. Ce qui n'était pas le cas en contexte chiite, depuis Sohrawardi jusqu'à Mulla Sadra, bien entendu, toute la théosophie chiite, toute la gnose dont nous gagnerions beaucoup, j'allais dire, à l'étudier maintenant et à la redécouvrir, simplement, et donc le troisième point, je vous promets que les autres questions n'auront pas des réponses aussi fleuves, parce que là c'est devenu une paraconférence. Le troisième point donc de votre question, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ou mésestimer l'aspect de rivalité géostratégique. D'ailleurs, même pour cette monstruosité que nous nommons Daesh, qui n'a pas de sens, pour la première fois, une langue sémitique s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens. Hamas, c'est le mouvement de la résistance islamique. On a pris les premières lettres et on a construit Hamas, qui veut dire aussi l'excès de zèle, l'enthousiasme, la ferveur. Mais Daesh n'a pas de sens. Il rime plutôt avec Fahesh, qui veut dire pervers. Bon, mais c'est comme ça. Et donc, tous ceux qui rejoignent les rangs de ce prétendu État islamique ou ce califat de la terreur, surtout si nous parlons de nos jeunes concitoyens qui y vont, eh bien, il y a une stratification d'explications qui vont depuis la strate sociale ou sociologisante, la lecture politique, la lecture géostratégique, effectivement, dans les rapports internationaux, la lecture psychanalytique, Moi, quand on me dit que des Néo-Zélandais et des Australiens, ils sont allés se battre là-bas, il y a quelque chose qui relève de la psychiatrie, ou de la psychanalyse à tout le moins. Il y a une lecture millénariste, nihiliste, apocalyptique. Soi-disant, le prophète de l'islam aurait fait une prédiction, qu'à la fin des temps, il va y avoir dans le nord de la Syrie, dans une bourgade qui s'appelle Dabr, d'ailleurs c'est le nom de l'organe central de cette organisation terroriste, qui sera le théâtre d'une conflagration généralisée entre les forces du mal et les forces du bien. Et donc, pour certains, il vaut mieux hâter ce temps-là pour que le bien, la paix, etc., advienne. Et puis, il y a d'autres lectures, la lecture théologique, où l'on continue à croire qu'il y a des phalanges évangéliques, des phalanges angéliques, c'est-à-dire on convoque les puissances célestes pour les armées terrestres, c'est-à-dire on est encore dans la vision magique ou la vision religieuse du monde, et puis peut-être d'autres lectures que je ne partage pas, parce que d'aucuns parmi nos compatriotes prétendus intellectuels ont une lecture essentialiste, culturaliste, c'est-à-dire il est d'essence de finir chez Daesh. Donc voilà, je n'ai pas d'autres explications que tout ça, et il se trouve que chez les... Votre question n'a pas porté sur l'organisation terroriste, mais dedans, il y a des officiers de Saddam Hussein qui ont vu que Nouri Maliki n'a pas agi en Mandela, au contraire, il est venu avec un esprit revanchard et vindicatif, se sont dit, bon, allez, autant aller avec cela, autant le chaos que de subir les brimades et les avanies maintenant du premier ministre irakien imposé par le proconsul Bremer. Bon, donc voilà. Alors, l'exacerbation de ce conflit paroxystique entre chiites et sunnites dans la région est assurément une affaire de rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, plus les histoires de l'oléoduc entre Téhéran et Damas, dont on ne veut pas voir le jour. Eh bien, ça continue, donc de 89 à maintenant, ça fait 27 ans, eh bien, c'était aussi le but peut-être de Khomeini, mais permettez-moi de dire comme homme, comme individu, l'appel, la fatwa de Khomeini a causé beaucoup plus de tort à l'islam et aux prophètes de l'islam que les écrits, que les versets sataniques de Salman Rushdie. C'est-à-dire que c'est tout. Je ne veux pas verser dans le discours imprécatoire parce que l'imprécation ne règle rien et le discours incantatoire ne fait jamais avancer les choses. Mais l'hystérie qui a suivi tout ça, la vision qu'on a de la tradition religieuse islamique avec cette manière de vouloir châtier les apostats, or criminaliser l'apostasie est en soi criminel, et ça n'a pas rendu, c'est très euphémistique, ça n'a pas rendu service du tout ni à l'islam, ni aux musulmans, ni aux chiites, ni aux sunnites.
J'avais deux questions. Moi, en fait, je termine une thèse sur la situation des oulémas musulmans algériens. Je vous avais envoyé un mail il y a à peu près un an. Et en fait, j'avais une première question qui est en lien avec ça, c'est... vous avez parlé des mouftis, mais vous avez aussi évoqué les oulémas. Et en fait, je travaille sur l'association des oulémas musulmans algériens, mais sur ce que deviennent ces membres après l'indépendance algérienne. Et donc, je suis confrontée à cette définition-là du alim contemporain. Et je me demandais quelle était votre vision là-dessus. Et ma deuxième question, c'était plus liée à la vie quotidienne et aux gens qu'on a autour de soi. Il y a beaucoup de vidéos actuellement qui circulent, qui essayent de prouver que l'islam est la vérité par le fait que le Coran a prévu les avancées scientifiques. Et je me demandais, comme vous êtes physicien et théologien, si vous aviez une remarque à faire là-dessus. Je vous remercie.
Ah, mon ami, rassurez-moi tout de suite, je vous ai répondu qu'on m'avait écrit il y a un an. Donc, sinon, j'aurais fait preuve d'une grande goujaterie. Et bien, physicien, théologien, non. Je ne fais pas de la fausse modestie qui est une tare. Physicien, loin d'être nobilisable, il faut du temps et de la recherche. Et puis, c'est vrai qu'il y a un plaisir à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. Mais bon, ça reste là. Hein. Donc, j'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour mes maîtres en sciences. Théologien, ben, la théologie n'est rien d'autre qu'en dehors de son étymologie qui est discourir sur le divin, que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et on ne croit pas de la même manière au 7e siècle qu'au 21e siècle. Alors, les oulémas, il faut que je tienne ma promesse de donner une réponse concise. Mais le sujet est un sujet, vous avez raison d'avoir une thèse, de soutenir une thèse là-dessus. Les oulémas algériens, d'abord, très brièvement, se sont rendus compte, notamment, que le peuple algérien, mais pas que le peuple algérien, est devenu colonisable. La colonisabilité est un néologisme de Malek Benhabi, à cause de la régression tragique, mais aussi de la démission intellectuelle, du suicide de la pensée. Il y a des attentats suicides que certains mouftis bénissent ou cautionnent, mais c'est le suicide de la pensée, parce que c'est un scandale intolérable que de croire qu'on accède dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable en semant le chaos comme ça. C'est inacceptable. Donc, ils se sont rendus compte de ça, et ils se sont rendus compte aussi de trois choses. La première, c'est que l'autorité coloniale distribuait des torches électriques à certains pseudo-marabouts qu'ils actionnaient pas en dessous le burnous, et le peuple crédule devant la lumière divine s'entend, on parlait même de karamet, donc des charismes, qui étaient de mèche et de collusion avec l'autorité coloniale. Et c'est pour ça que la loi dite de séparation de 1905, du 9 décembre, n'était pas appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée. Alors, il y a eu des tergiversations entre 1905 jusqu'à 1907, dérogation jusqu'en 1917, prorogée 10 ans jusqu'en 1927, et le président de l'association des oulémas algériens, parce qu'elle a été fondée en 1931, donc 4 ans plus tard, Ben Badis, dans une délégation qu'il conduisait, venait auprès du Conseil d'État pour requérir afin que la loi de 1905 fût appliquée. Et le refus n'est pas venu du côté qu'on pense. Donc, du coup, il était débouté. Il part pour écrire dans le Météore, l'organe central de l'association des oulémas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu, qui, dans un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. Bon, la troisième chose, c'est le fait de se rendre compte que, j'ai dit moment Descartes, moment Freud, que l'effervescence autour de Freud, etc., les relations homme-femme, doivent plutôt gagner en harmonie, en apaisement, renouer même avec ce qui a pu se passer à travers l'histoire, à Cordoue, à Séville pour l'Occident, ou Ispahan, ou Samarcande, ou Tashkent pour la partie orientale. Et dans le mouvement scout islamique, dont Ben Badis était le guide spirituel, les garçons étaient en Bermuda, les filles étaient en jupe. Et si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou. Et surtout, l'acquisition du savoir. Et l'acquisition du savoir, c'était par les instituts Ben Badis, les fameuses maisons du hadith, mais peut-être de la parole, du verbe. Et dans ces maisons-là, dans ces écoles-là, les élèves étaient mixtes, au moment où l'autorité coloniale avait l'école pour les garçons et l'école pour les filles, dans l'école communale, et les institutrices n'étaient pas voilées. Et donc ce travail de préparation, là, de gagner en intelligence, sans rester dans une norme asphyxiante, une norme juridique religieuse, était réel. Et puis ça a participé au mouvement de l'émancipation, mouvement d'émancipation du peuple algérien par-delà des peuples. Je vais être sévère après l'indépendance. Malheureusement, la mainmise du pouvoir FLN a fait en sorte, tournant le dos d'ailleurs à la charte de la Soumane en 1956 qui voulait que l'État serait laïque, multiconfessionnel, etc., Là, du coup, on se retrouve avec des billevesées et des fadaises de type l'islam est la religion de l'État. C'est comme si un État a une confession. Et donc, elle a connu une sorte de mise en veille, je parle de l'association, sur ordre politique, et puis elle renaît. Comme je connais l'actuel président, donc il vaut mieux que je me taise, il fut vice-recteur de la Grande Mosquée de Paris du temps où mon père en fut le recteur. Donc je ne vais pas dire autre chose que c'était un ami de mon père. Bon. Alors, la définition du ha'alim, c'est la notion du ha'ilm, finalement. Ha'ilm, pardonnez-moi, c'est science-savoir. Ce n'est pas dans l'acception technique de type science dure ou science pure, selon la prétention des physiciens, c'est dans l'acception d'être dépositaire d'un savoir, voire d'un savoir qui vient de Dieu. D'ailleurs, les mouftis ne peuvent pas décréter des fatwas s'ils ne se sentent pas inspirés, disons. Donc, voilà, alors le ha'alim, ce n'est pas nécessairement le docteur de la loi religieuse. Bon, parfois on les trouve véritablement fins connaisseurs dans les arcanes de l'histoire de la théologie islamique selon les différentes écoles, mais n'ayant pas lu ni Heidegger, ni Sartre, ni Kierkegaard, ni Nietzsche, eh bien, ils n'ont qu'une vision un peu biaisée des choses. Alors, la seconde question, c'est ce qu'on appelle le concordisme. À mon avis, là aussi je suis sévère, parce que, en dehors d'Abdus Salam ou Zoheil ou quelques physiciens musulmans, tout en étant croyants, qui s'adonnaient à la science, aux sciences exactes d'une manière générale, les autres ont marqué un énorme retard. Ils ont accusé un retard terrible, mais comme c'est insupportable d'être arriéré, ben on n'a pas trouvé mieux que de dire bon, de toute façon, tout ça, c'est dans le Coran. Il ne manquait plus que la vitesse de la lumière sous forme numérique, j'ai envie de dire. Parce que Dieu, parlant de tout temps, il saura nous dire, et on pourra puiser, il suffit que l'intelligence humaine puise ce qu'il y a dans le Coran. C'est à la fois naïf, c'est aussi c'est du concordisme, et il est évident que la cosmogonie coranique n'a rien à voir avec les avancées de l'astrophysique actuelle. Donc il faudrait avoir une vision plutôt allégorique, métaphorique, interprétative des choses à la manière d'un Averroès, 1126-1198, qui, dans son traité décisif, qui est une fatwa. Sauf que c'est une fatwa parce qu'on est venu lui poser une question, il a répondu. On est en plein dans le sujet. Il l'a écrit en 1179 à Séville pour répondre à ce que la loi religieuse, enfin la révélation et la philosophie peuvent être compatibles. Et donc il disait, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas à la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Bon, donc, un homme d'une telle audace intellectuelle au XIIe siècle, je ne vois pas pourquoi, au XXIe, on en aurait moins. Donc, faisons attention aux fameuses fatwas de Cheikh Google, qui va donner des réponses à ceux qui viennent le solliciter, y compris pour faire de l'apologie mièvre sur les vérités islamiques.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question, en fait, concernant quand vous avez parlé de la question du début du Ramadan, et en fait, la divergence entre différentes avis ou écoles. Et on entend de plus en plus en fait, des gens qui disent peut-être que ça serait bien qu'il y aurait une autorité islamique dans le monde musulman qui va légiférer dessus, dire voilà, tout le monde va commencer à telle date, ou ou bien on va prendre le calcul, ou bien on va prendre la vision. Et à un certain moment, je me demande est-ce que ça... Enfin, d'après ma compréhension de l'histoire, au moins ou islamique, on va dire, ou bien du monde arabe ou islamique, si ce n'est pas une histoire un peu qui était toujours une histoire de divergence, que la production intellectuelle, il était toujours un peu du divergence d'un avis, de contre-avis, il n'y avait pas toujours... Enfin, il n'y a pas cette culture ou bien cette vision de consensus qu'on a dans le monde occidental où on va se mettre, enfin, par rapport à un point où on aura toujours, même dans la grammaire, même dans la langue, même dans l'histoire, même dans des normes, c'était toujours, parce que même dans la langue arabe, si ce n'est que le nombre de lettres dans l'alphabet arabe, il n'y a pas un consensus, il y a une divergence. Il y en a qui disent 28, il y en a qui disent 29. C'était toujours une... Je ne sais pas si on appellera ça divergence, ou je ne sais pas quel terme on utilisera, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça ne serait pas quelque part... ce serait pas quelque part de se dire, voilà, l'Occident, là, maintenant, il est en avancée. Eux, ils sont dans une sorte de norme, de conforme. Ils ont un style intellectuel comme ça. Pourquoi on ne va pas faire comme eux, mettre une autorité, et comme ça, les choses iront mieux pour nous? Est-ce qu'en faisant comme ça, c'est plutôt, on ne va pas dénaturer notre... Enfin, la pensée islamique, ou bien l'histoire de la pensée, ou bien de la production intellectuelle, et au final, ça ne marchera pas. Enfin, je ne sais pas. À vous de me dire.
Bien. J'ai constaté que vous faisiez de l'ijtihad. Et... Donc, une réflexion mentale, cérébrale, et selon la version standard, dans le cadre, au sein de la raison religieuse, ben vous avez un mérite, c'est celui d'avoir essayé de comprendre. Et ceux qui aboutissent ont deux mérites, dit toujours cette même version. Par quel bout vais-je répondre? Il me semble, il y a trois aspects. La question de la divergence, et chez les savants musulmans, savants au sens que vous avez évoqué là à l'instant, donc dans le cadre de la religion, il y a cette idée que dans la divergence des savants, il y a une miséricorde, et c'est bien qu'il y ait de la divergence. Comme ça, on échappe à une approche monolithique, univoque, dogmatique, etc. Parce que seules les certitudes rendent fous, disait Nietzsche. Le contraire de la vérité n'est pas le mensonge, mais ce sont les certitudes. Et sans vouloir faire étalage d'une vaine érudition, mais j'aime à rappeler la citation de Kierkegaard à propos de la certitude. Il dit « Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. » On pensa qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista, on rit de plus belle et les applaudissements redoublèrent. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, n'est que divertissement et plaisanterie. Donc c'est pour ça que l'idée de la divergence des savants est une miséricorde. Chacun trouve, selon son intelligence, ses compréhensions, ce qu'a dit un tel, etc., et on en puise, et tout cela se fait d'une manière harmonieuse, et on échappe au dictat. Mais il faut être sûr de soi. J'ai cité l'exemple que je vais vous dire, ça m'a valu quelques inimitiés dans une autre assemblée, j'ai dit, la patineuse artistique qui ose le triple axel, c'est celle qui a une bonne colonne vertébrale. Si elle a un lambago, elle n'ira même pas patiner. Donc, il faut avoir vraiment une bonne colonne vertébrale, c'est-à-dire une bonne connaissance de son patrimoine, de son histoire, de l'histoire qui est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte, mais comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensée et de culture, mais comme aussi une archéologie du temps présent. Donc voilà comment les choses se sont sédimentées à travers l'histoire. Quand on connaît ça, on est très peu frileux ou pusillanime, on n'est pas crispé, on n'est pas recroquevillé sur ce qu'on croit être juste et bon et salvateur. Deuxièmement, la civilisation humaine, pas la civilisation occidentale, a des critères, a des valeurs. Ce qui est formidable, c'est extraordinaire pour l'ensemble de l'humanité. Ce qui n'est pas valable et critiquable, il faut le dire. C'est-à-dire que lorsque nous disons qu'il faut sortir des clôtures dogmatiques, dégeler les glaciations idéologiques, libérer l'esprit de sa prison, s'affranchir des enfermements doctrinaux, ça concerne tous les enfermements doctrinaux. Ça concerne toutes les clôtures dogmatiques, sous quelque ciel ou que ce soit, où que l'on se trouve. Et si ça ne va pas dans ce que vous avez appelé l'Occident, il faut le dire. Dans votre esprit, si j'ai bien compris, c'est que, bon, maintenant, il y a une civilisation occidentale et que, eu égard à la situation, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'encéphalogramme plat en contexte islamique, donc il y a la notion du mimétisme en imite celui qui jouit d'une puissance, une puissance intellectuelle, économique, militaire, etc. Non, il faut simplement reconnaître, et j'espère que je ne passe pas pour quelqu'un qui est venu caresser un passé mythique et révolu. À un moment donné de l'histoire, c'était plutôt de l'autre côté. Il y a ce qu'on appelle la translation studiorum, la translation des études et du savoir. Parce que les musulmans étaient ouverts sur la sagesse des Grecs, et parce qu'ils n'étaient pas dans le dogmatisme, parce qu'à la maison de la sagesse de Bagdad, on pouvait avoir des controverses où on ne prenait pas le Coran comme base de discussion, ni comme une référence. Parce que le Coran, c'est de l'autoréférence et de l'autodétermination, surtout avec ceux qui n'y croient pas. Eh bien, mais après, quand on s'était fermé, on a cru que les sciences qui venaient d'ailleurs étaient intruses et qu'il valait mieux laisser place aux sciences religieuses au détriment des sciences rationnelles, eh bien le déclin s'est aggravé encore. Ça, il ne faut pas avoir de scrupules là-dessus. Le seul critère, le critérium discriminant entre ce qui est bien pas bien, c'est l'entendement humain. Et j'allais dire la personne humaine, son intégrité physique, son intégrité morale, ne pas aliéner les esprits des gens. Si c'est en Occident que ces valeurs-là existent, il faut y adhérer. C'est pas une question d'Occident. Je sais que la démocratie est un point à l'horizon et une promesse. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Et on se gargarise de la lettre aux instituteurs ici. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que nous évoluons et nous devons avoir toujours un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensées, mais dans une approche humaniste. Un humanisme qui soit théocentré ou anthropocentré, la question n'est pas là. Un humanisme qui assume l'héritage des peuples, quel qu'il soit, y compris ceux qui ânent sous des servitudes renouvelées, ceux qui se trouvent maintenant sur les routes aussi. Parce que quelqu'un qui est chassé injustement de sa demeure d'Alep ou de Damas est héritier d'une grande tradition et d'une grande civilisation. Alors, maintenant, la question de... Est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien? Moi, je donne un avis qui est totalement contestable. Ce serait bien que nous autres, pour la première fois, je mets en avant ma confession islamique, que nous autres musulmans, nous nous mettions d'accord sur le début et la fin du jeûne du mois de Ramadan. De grâce, qu'il y ait un peu d'autorité pour mettre un peu d'ordre dans le fatra idéal, intellectuel qui prévaut ailleurs. Tout simplement. Ce n'est pas dit qu'il faut nécessairement voir le croissant lunaire pour commencer à jeûner, pour ceux qui veulent observer leur jeûne. Bon, voilà. Alors, faut-il une autorité centrale? C'est vrai que l'absence d'une autorité centrale est à la fois une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inextricables. Pour peu que les prétendus savonaroles des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, ce sont eux qu'on entendra. Et ils commettent l'irréparable. et d'attentat en attentat, parce qu'on a toujours plus radical que soi, il y a toujours plus ultra que soi. Eh bien, ce sont eux qui pervertissent, qui avilissent, eh bien, l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oublié, oblitéré, effacé des mémoires, ignoré, insoupçonné même. Ben, il est temps, allez, que nous nous réveillons véritablement. Et ça peut commencer par ça, mais vox clamans in deserto.
Une petite question pour votre avis sur la fatwa de Manuel Valls par rapport à Tariq Ramadan et plus généralement l'arrivée donc de Tariq Ramadan dans le débat aujourd'hui en France. Comment vous vous situez par rapport à ces propositions de réforme et aux crispations qu'il provoque?
Ah, mon ami, vous posez une question à la fin. Je ne me défausse jamais, mais il faut savoir finir une réunion comme il faut savoir finir une grève. Dès lors qu'il y a eu satisfaction, parce qu'il ne faut jamais tronquer les citations, le citoyen que je suis trouve que notre cher Premier ministre en fait trop. Et a fortiori dans un État laïque, les questions relatives aux confessions, à UX, hein, donc, etc., on doit les laisser, j'allais dire, aux prélats, aux dignitaires religieux, etc. Et nous sommes dans un état de droit, et la civilisation veut qu'on laisse, pour les questions épineuses, et quand on ne se met pas d'accord au droit. Tariq Ramadan a demandé à intégrer le corps national français. S'il satisfait aux critères, c'est très bien. S'il ne satisfait pas, ben, il reste helvète, c'est bien comme ça aussi. Bon, je n'ai pas autre chose à ajouter. Et les effets de manche, les paroles comme ça, je ne le dis pas que pour Manuel Valls, je le dis aussi pour d'autres. On a des hommes politiques dont je ne mésestime pas, pour certains d'entre eux, la volonté de servir, de se coltiner la gestion des affaires dans la cité. Ça leur coûte du temps, de l'énergie, de la fatigue, une vie de famille fracassée dans certains cas. Mais je regrette aussi que notre société ne secrète plus des hommes et des femmes à la culture des biens publics et des hommes d'État. Hélas, on a ceux qui, au gré des campagnes électorales, vont proférer des propos toxiques, des idées infectieuses et qui, après incubation, peuvent rendre malade la nation. Donc, il vaut mieux être sur ces questions-là, pas pusillanime, mais au moins faire preuve de sagesse et de circonspection. Pas en l'espèce, je parle d'une manière générale, mais en ce qui concerne ça, je pense qu'il vaut mieux aller vers plus d'apaisement, notamment après l'annus horribilis que nous avons connu en 2015. Voilà. Alors, on m'avait dit comment je me situe, je ne sais plus si c'est par rapport à l'homme ou par rapport au débat. Le débat, je vous ai donné mon avis. L'homme, nous avons eu un débat houleux à l'UNESCO il y a quelques années de cela. Autant je regrette peut-être la forme, mais je ne regrette pas le fond. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi.